Deux ans de vacances, chapitre 24. Premier essai. Agrandissement de l'appareil. Deuxième essai. Remise au lendemain. Proposition de Brillant. Proposition de Jacques. L'aveu. L'idée de Brillant. Dans les airs au milieu de la nuit. Ce qui apparaît. Le vent fraîchit. Dénouement. Dès le matin du 25 novembre, Brillant et Baxter se mirent à l'œuvre. Avant de donner à l'appareil des dimensions plus considérables, il parut bon de savoir quel poids il aurait la force d'enlever tel qu'il était. Cela permettrait d'arriver par tâtonnement, faute de formule scientifique, à lui donner la surface suffisante pour supporter, non compris le sien propre, un poids qui ne devrait pas être inférieur à 120 ou 130 livres. Il ne fut pas nécessaire d'attendre la nuit pour faire cette première expérience. En ce moment, la brise soufflait du sud-ouest et Brillant se dit qu'il n'y aurait aucun inconvénient à en profiter, à la condition de retenir le cerf-volant à une faible hauteur, de façon qu'il ne pût être aperçu de la rive orientale du lac. L'opération réussit à souhait. Il fut constaté que l'appareil, sous l'action d'un vent ordinaire, soulevait un sac pesant 20 livres. Un peson, provenant du matériel du Sloughi, avait permis d'obtenir très exactement ce poids. Le cerf-volant fut alors ramené à terre et couché sur le sol de Sport Terrace. En premier lieu, Baxter rendit son armature extrêmement solide au moyen de cordes qui se reliaient à un nœud central, comme les baleines d'un parapluie, à l'anneau qui se glisse sur le manche. Ensuite, sa surface fut accrue par un supplément d'armature et une adjonction de nouvelles toiles. Pour cet ajustement, Kate se montra très utile. Les aiguilles et le fil ne manquaient point à Frenchden, et la droite ménagère s'entendait aux travaux de couture. Si Brillant ou Baxter eussent été plus forts en mécanique, ils auraient considéré, dans la construction de l'appareil, les principaux éléments qui sont le poids, la surface plane, le centre de gravité, le centre de pression du vent, lequel se confond avec le centre de figure, et enfin le point d'attache de la corde. Puis, ces calculs établis, ils auraient déduit quelle eût été la puissance ascensionnelle du cerf-volant et la hauteur à laquelle il pourrait atteindre. De même, le calcul leur aurait appris quelle force devrait avoir la corde pour résister à la tension, conditions des plus importantes pour assurer la sécurité de l'observateur. Heureusement, la ligne fournie par le log du schooner, et qui mesurait au moins 2000 pieds de longueur, convenait parfaitement. D'ailleurs, même par une brise très fraîche, un cerf-volant ne tire que modérément, lorsque le point d'attache du balancier est judicieusement choisi. Il y aurait donc lieu de régler avec soin ce point d'attache d'où dépend l'inclinaison de l'appareil sur le lit du vent et d'où résulte sa stabilité. Avec cette nouvelle destination, le cerf-volant ne devait plus avoir de queue à son appendice inférieur, ce dont Costard et Doll se montrèrent fort dépités. C'était inutile, le poids enlevé suffirait à l'empêcher de piquer une tête. Après tâtonnement, Brillant et Baxter observèrent qu'il conviendrait d'attacher ce poids au tiers de l'armature en le fixant à l'une des traverses qui rendaient la toile dans le sens de la largeur. Deux cordes, amarrées à cette traverse, le soutiendraient de façon qu'il se trouvât suspendu à une vingtaine de pieds au-dessous. Quant à la corde, on en prépara une longueur de 1200 pieds environ, qui, courbe déduite, permettrait de s'élever à 700 ou 800 pieds au-dessus. Enfin, pour parer autant que possible au danger de chute, dans le cas où elle se produirait par une rupture de la corde ou un bris de l'armature, il fut convenu que l'ascension se ferait au-dessus du lac. La distance horizontale à laquelle s'effectuerait cette chute ne serait jamais assez considérable, en tout cas, pour qu'un bon nageur ne pût regagner la rive de l'ouest. Lorsque l'appareil fut terminé, il présentait une surface de 70 mètres carrés sous la forme d'un octogone dont le rayon avait près de 15 pieds et chacun des côtés près de 4. Avec ses armatures solides, sa toile imperméable au vent, il devait facilement enlever un poids de 100 à 120 livres. Quant à la nacelle, dans laquelle l'observateur prendrait place, ce fut tout simplement une de ces bailles d'osier qui servent à divers usages à bord des yachts. Elle était assez profonde pour qu'un garçon de taille ordinaire pût y entrer jusqu'aux aisselles, assez large pour qu'il eût la liberté de ses mouvements, assez ouverte pour qu'il lui fût possible de s'en dégager prestement si besoin était. Comme on le pense bien, ce travail ne s'était pas fait en un jour, ni même en deux. Commencé le 5 dans la matinée, il ne fut achevé que dans l'après-midi du 7. On remit donc au soir l'expérience préparatoire qui aiderait à reconnaître la puissance ascensionnelle de l'appareil et son degré de stabilité dans l'air. Durant ces derniers jours, rien n'était venu modifier la situation. Plusieurs fois, les uns ou les autres étaient restés pendant de longues heures en observation sur la falaise. Ils n'avaient rien vu de suspect, ni dans le nord, entre la lisière de Trapp's Woods et French Den, ni dans le sud, au-delà du Rio, ni dans l'ouest, du côté de Sluggy Bay, ni sur le Family Lake que Wollaston aurait pu vouloir visiter avant de quitter l'île. Aucune détonation ne s'était fait entendre aux approches d'Auckland Hill. Aucune fumée ne s'était déroulée au-dessus de l'horizon. Brillant et ses camarades étaient-ils donc en droit d'espérer que ces malfaiteurs avaient abandonné définitivement l'île Chairman? Leur serait-il enfin loisible de reprendre en toute sécurité les habitudes d'autrefois? C'est ce que l'expérience projetée allait permettre de constater sans doute. Maintenant, une dernière question. Comment celui qui prendrait place dans la nacelle parviendrait-il à faire le signal d'être ramené à terre lorsqu'il le jugerait nécessaire? Voici ce qu'exposa Brillant lorsque Doniphan et Gordon l'interrogèrent à ce sujet. « Un signal lumineux est impossible, répondit Brillant, car il risquerait d'être aperçu de Wollaston. Aussi, Baxter et moi avons-nous recouru au procédé suivant. Une ficelle d'une longueur égale à la corde du cerf-volant, après avoir été préalablement enfilée dans une balle de plomb percée à son centre, sera attachée à la nacelle par un bout, tandis que l'autre bout restera à terre entre les mains de l'un de nous. Il suffira de laisser glisser cette balle le long de la ficelle pour donner le signal de ramener le cerf-volant. Bien imaginé, répondit Doniphan. Tout étant ainsi convenu, il n'y eut plus qu'à procéder à un essai préliminaire. La lune ne devait se lever que vers 2 heures après minuit, et il faisait une jolie brise qui soufflait du sud-ouest. Les conditions parurent donc particulièrement favorables pour opérer dès le soir même. À 9 heures, l'obscurité était profonde. Quelques nuages, assez épais, couraient à travers l'espace sur un ciel sans étoiles. À quelque hauteur que s'éleva l'appareil, il ne pourrait être aperçu même des environs de French Den. Grands et petits devaient assister à cette expérience, et, puisqu'il ne s'agissait que d'une opération à blanc, comme on dit, ce serait avec plus de plaisir que d'émotion qu'ils en suivraient les diverses péripéties. Le virevaut du Sluggy avait été installé au centre de Spot Terrace et solidement fixé au sol, afin de résister à l'attraction de l'appareil. La longue ligne, lovée avec soin, fut disposée de manière à se dérouler sans effort, en même temps que la ficelle destinée à donner le signal. Dans la nacelle, Brillant avait placé un sac de terre qui pesait exactement 130 livres, poids supérieur à celui du plus lourd de ses camarades. Doniphan, Baxter, Wilcox, Webb, allèrent se poster près du cerf-volant, étendu à terre, à 100 pas du virevaut. Au commandement de Brillant, il devait le redresser, peu à peu, au moyen de cordes qui se rattachaient aux traverses de l'armature. Dès que l'appareil aurait donné prise au vent, suivant son inclinaison déterminée par la disposition du balancier, Brillant, Gordon, Service, Cross, Garnett, préposés à la manœuvre du virevolt, lui fileraient de la corde à mesure qu'il s'élèverait dans l'air. « Attention !» cria Brillant. « Nous sommes prêts !» répondit Doniphan. « Allez !» L'appareil se releva peu à peu, frémit sous la brise et s'inclina sur le lit du vent. « Filez, filez !» cria Wilcox. Et, aussitôt, le virevolt de se dérouler sous la tension de la ligne, tandis que le cerf-volant et la nacelle montaient lentement à travers l'espace. Bien que ce fût imprudent, des hurrahs éclatèrent lorsque le géant des airs eut quitté le sol. Mais, presque aussitôt, il disparut dans l'ombre, vif désappointement pour Iverson, Jenkins, Doll et Costard, qui auraient voulu ne point le perdre de vue pendant qu'il se balançait au-dessus du Family Lake. Ce qui amena Kate à leur dire « Ne vous désolez point, mes papouses. Une autre fois, quand il n'y aura plus de danger, on l'enlèvera en plein jour, votre géant, et on vous permettra de lui envoyer des postillons, si vous avez été sage. » Bien qu'on ne le vît plus alors, on sentait que le cerf-volant tirait régulièrement, preuve qu'une brise bien établie soufflait dans les hautes zones et que la traction était modérée. Preuve aussi que le balancier était disposé comme il convenait. Brillant, voulant que la démonstration fût convaincante, autant que le permettaient les circonstances, laissa la corde se dérouler jusqu'à son extrémité. Il put alors apprécier son degré de tension qui n'avait rien d'anormal. Le virevolt en avait filé 1200 pieds, et très probablement, l'appareil avait dû s'élever à une hauteur de 700 à 800. Cette manœuvre n'avait pas demandé plus de 10 minutes. L'expérience étant réalisée, on se relaya aux manivelles afin de relever la corde. Seulement, cette seconde partie de l'opération fut de beaucoup la plus longue. Il ne fallut pas moins d'une heure pour ramener les 1200 pieds de ligne. De même que pour un aérostat, l'atterrissement du cerf-volant est toujours la manœuvre la plus délicate si l'on veut qu'il atterrisse sans choc. Mais la brise était si constante alors que cela se fit avec un entier succès. Bientôt, l'octogone de toit lui reparut dans l'ombre et il vint s'abattre doucement sur le sol, à peu près au point d'où il était parti. Des hurrahs accueillirent son arrivée comme ils avaient salué son départ. Il n'y avait donc plus qu'à le maintenir à terre afin qu'il ne donnât pas prise au vent. Aussi, Baxter et Wilcox offrirent-ils de le veiller jusqu'au lever du jour. Le lendemain, 8 novembre, à la même heure, se ferait l'opération définitive. Et maintenant, on n'attendait plus que les ordres de Brillant pour rentrer à Frenchden. Brillant ne disait rien et semblait profondément absorbé dans ses réflexions. À quoi songeait-il? Était-ce au péril que présentait une ascension tentée dans des conditions si exceptionnelles? Pensait-il à la responsabilité qu'il assumait en laissant un de ses camarades se hasarder dans cette nacelle? « Rentrons, dit Gordon, il est tard. »« Un instant, répondit Brillant. Gordon, Doniphan, attendez, j'ai une proposition à faire. »« Parle, répliqua Doniphan. » »« Nous venons d'essayer notre cerf-volant, reprit Brillant, et cet essai a réussi parce que les circonstances étaient favorables, le vent étant régulier, ni trop faible ni trop fort. » Or, savons-nous quel temps il fera demain, et si le vent permettra de maintenir l'appareil au-dessus du lac? Aussi, me paraîtrait-il sage de ne point remettre l'opération. Rien de plus raisonnable, en effet, du moment qu'on était résolu à la tenter. Cependant, à cette proposition, personne n'avait répondu. Au moment de courir de tels risques, l'hésitation était naturelle, même de la part des plus intrépides. Et pourtant, lorsque Brillant eut ajouté « Qui veut monter ?»« Moi !» dit vivement Jacques. Et presque aussitôt « Moi !» s'écrièrent à la fois Doniphan, Baxter, Wilcox, Cross et Service. Puis un silence se fit que Brillant ne se pressait pas d'interrompre. Ce fut Jacques qui dit le premier « Frère, c'est à moi de me dévouer. Oui, à moi, je t'en prie, laisse-moi partir. » Et pourquoi toi, plutôt que moi, plutôt qu'un autre? Répondit Doniphan. Oui, pourquoi? Demanda Baxter. Parce que je le dois, répondit Jacques. Tu le dois? Dit Gordon. Oui. Gordon avait saisi la main de Brillant comme pour lui demander ce que Jacques voulait dire, et il la sentit trembler dans la sienne. Et, même si la nuit n'eût été si obscure, il aurait vu pâlir les joues de son camarade, il aurait vu ses paupières s'abaisser sur ses yeux humides. « Eh bien, frère, reprit Jacques d'un ton résolu, et qui surprenait chez un enfant de cet âge. « Réponds, Brillant, dit Doniphan. Jacques dit qu'il a le droit de se dévouer. Mais ce droit, ne l'avons-nous pas comme lui? Qu'a-t-il donc fait pour le réclamer ?»«
Ce que j'ai fait, répondit Jacques. Ce que j'ai fait, je vais vous le dire.
« Jacques ! S'écria Brillant, qui voulait empêcher son frère de parler.
« Non, reprit Jacques, d'une voix entrecoupée par l'émotion. « Laisse-moi avouer. Cela me pèse trop. Gordon, Doniphan, si vous êtes ici, tous, loin de vos parents, sur cette île, c'est moi, moi seul qui en suis la cause. Si le Sloogie a été emporté en pleine mer, c'est que, par imprudence, non, une plaisanterie, une farce, j'ai détaché l'amarre qui le retenait au quai d'Auckland. Oui, une farce. Et puis, lorsque j'ai vu le yacht dériver, j'ai perdu la tête. Je n'ai pas appelé lorsqu'il était temps encore. Et une heure après, au milieu de la nuit, en pleine mer. Ah, pardon, mes camarades, pardon.
Et le pauvre garçon sanglotait, malgré Kate, qui essayait en vain de le consoler.
Bien, Jacques, dit alors Brillant, tu as avoué ta faute, et maintenant tu veux risquer ta vie pour la réparer, ou au moins pour racheter en partie le mal que tu as fait.
Et ne l'a-t-il pas racheté déjà? S'écria Doniphan, qui se laissait aller à sa générosité naturelle. Est-ce qu'il ne s'est pas exposé 20 fois pour nous rendre service?
Ah, Brillant, je comprends maintenant pourquoi tu mettais ton frère en avant lorsqu'il y avait quelque danger à courir, et pourquoi il était toujours prêt à se dévouer. Voilà pourquoi il s'est lancé à la recherche de Cross et de moi, au milieu du brouillard, au péril de sa vie.
Oui, mon ami Jacques, nous te pardonnons bien volontiers, et tu n'as plus besoin de racheter ta faute.
Tous entouraient Jacques. Ils lui prenaient ses mains, et cependant les sanglots ne cessaient de gonfler sa poitrine. On savait à présent pourquoi cet enfant, le plus gai de tout le pensionnat de Sherman, l'un des plus espiègles aussi, était devenu si triste, pourquoi il ne cherchait qu'à se tenir à l'écart. Puis, par ordre de son frère, par sa volonté surtout, on l'avait vu payer de sa personne toutes les fois qu'une périlleuse occasion s'était offerte. Et il ne croyait pas avoir fait assez. Il demandait encore à se dévouer pour les autres. Et dès qu'il put parler, ce fut pour dire « Vous le voyez, c'est à moi seul de partir, n'est-ce pas, frère ?»«
Bien, Jacques, bien !» répéta Brillant, qui attira son frère dans ses bras. Devant l'aveu que Jacques venait de faire, devant ce droit qu'il réclamait, ce fut en vain que Doniphan et les autres essayèrent d'intervenir. Il n'y avait qu'à le laisser se livrer à la brise, qui manifestait une certaine tendance à fraîchir. Jacques serra la main de ses camarades. Puis, prêt à prendre place dans la nacelle, qui venait d'être débarrassée du sac de terre, il se retourna vers Brillant. Celui-ci était immobile à quelques pas en arrière du virevaux. « Que je t'embrasse, frère, » dit Jacques. « Oui, embrasse-moi, » répondit Brillant en maîtrisant son émotion. « Ou plutôt, c'est moi qui t'embrasserai. « Car c'est moi qui vais partir.
« Toi ? » s'écria Jacques.
« Toi ? » répétèrent Doniphan et Service.
« Oui, moi. Que la faute de Jacques soit rachetée par son frère ou par lui, peu importe. D'ailleurs, lorsque j'ai eu l'idée de cette tentative, avez-vous jamais pu croire que mon intention était de la laisser faire à un autre ?»«
Frère, s'écria Jacques, je t'en prie.
« Non, Jacques. »
« Alors, dit Doniphan, je réclame à mon tour. »
« Non, Doniphan, répondit Brillant, d'un ton qui n'admettait pas de réplique.
« C'est moi qui partirai, je le veux. »«
Je t'avais deviné, Brillant, » dit Gordon en serrant la main de son camarade.
Sur ces mots, Brillant s'était introduit dans la nacelle et, dès qu'il y fut convenablement installé, il donna l'ordre de redresser le cerf-volant. L'appareil, incliné sur la brise, monta doucement d'abord. Puis, Baxter, Wilcox, Cross et Service, postés au virevaux, lui filèrent de la corde en même temps que Garnett,
qui tenait la ficelle signal, la faisait glisser entre ses doigts. En 10 secondes, le géant des airs eut disparu dans l'ombre, non plus au milieu des hurrahs qui avaient accompagné son départ d'essai, mais au milieu d'un profond silence. L'intrépide chef de ce petit monde, le généreux brillant, avait disparu avec lui. Cependant, l'appareil s'élevait avec une régulière lenteur. La constance de la brise lui assurait une stabilité parfaite. À peine se balançait-il d'un côté sur l'autre. Brillant ne ressentait aucune de ces oscillations qui eussent rendu sa situation plus périlleuse. Aussi se tenait-il immobile, les deux mains fixées aux cordes de suspension de la nacelle, que berçait à peine un léger mouvement d'escarpolette. Quelle étrange impression Brillant éprouva tout d'abord quand il se sentit suspendu dans l'espace à ce large plan incliné qui frémissait sous la poussée du courant aérien. Il lui semblait qu'il était enlevé par quelque fantastique oiseau de proie, ou plutôt accroché aux ailes d'une énorme chauve-souris noire. Mais grâce à l'énergie de son caractère, il put conserver le sang-froid qu'exigeait son expérience. 10 minutes après que le cerf-volant eut quitté le sol de Spot Terrace, une petite secousse indiqua que son mouvement ascensionnel venait de prendre fin. Arrivé à l'extrémité de sa corde, il se releva encore, non sans quelques secousses cette fois. L'altitude atteinte verticalement devait être comprise entre 600 et 700 pieds. Brillant, très maître de lui, tendit d'abord la ficelle enfilée dans la balle, puis il se mit à observer l'espace. Retenu d'une main à l'une des cordes de suspension, il tenait sa lunette de l'autre. Au-dessous de lui, obscurité profonde. Le lac, les forêts, la falaise formaient une masse confuse dont il ne pouvait distinguer aucun détail. Quant à la périphérie de l'île, elle tranchait sur la mer qui la circonscrivait, et, du point occupé par lui, Brillant était à même d'embrasser tout son ensemble. Et vraiment, s'il eût fait cette ascension en plein jour et dirigé ses regards sur un horizon baigné de lumière, peut-être aurait-il aperçu soit d'autres îles, soit même un continent, s'il en existait dans un rayon de 40 à 50 milles, portée à laquelle sa vue devait certainement atteindre. Si vers l'ouest, le nord et le sud, le ciel était alors trop embrumé pour qu'il pût rien apercevoir, il n'en fut pas ainsi dans la direction de l'est, où un petit coin du firmament, momentanément dégagé de nuages, laissait briller quelques étoiles. Et précisément de ce côté, une lueur assez intense, qui se réfléchissait jusque dans les basses volutes de vapeur, attira l'attention de Brillant. C'est la lueur d'un feu, se dit-il. Est-ce que Wollaston aurait établi son campement en cet endroit? Non, ce feu est beaucoup trop éloigné, et il se trouve très certainement bien au-delà de l'île. Serait-ce donc un volcan en éruption? Et y aurait-il une terre dans les parages de l'Est? Il revint à la pensée de Brillant que, pendant sa première expédition à Deception Bay, une tache blanchâtre avait apparu dans le champ de sa lunette. Oui, se dit-il, c'était bien de ce côté. Et cette tache, serait-ce la réverbération d'un glacier? Il doit y avoir dans l'est une terre assez rapprochée de l'île Tchermann. Brillant avait braqué sa lunette sur cette lueur que l'obscurité contribuait à rendre plus apparente encore. Nul doute qu'il n'y eût là quelques montagnes ignivomes, voisines du glacier entrevu, et qui appartenait soit à un continent, soit à un archipel, dont la distance ne mesurait pas plus d'une 30 000 milles. En ce moment, Brillant ressentit une nouvelle impression lumineuse. Beaucoup plus près de lui, à 5 ou 6 000 environ, et par conséquent à la surface de l'île, une autre lueur brillait entre les arbres, à l'ouest du Family Lake. C'est dans la forêt cette fois, se dit-il, et à sa lisière même, du côté du littoral. Mais il semblait que cette lueur n'avait fait que paraître et disparaître, car, malgré une observation attentive, Brillant ne parvint pas à la revoir. Oh, le cœur lui battait violemment, et sa main tremblait au point qu'il lui était impossible de braquer sa lunette avec une précision suffisante. Cependant, il y avait là un feu de campement, non loin de l'embouchure de l'East River. Brillant l'avait vu, et bientôt il reconnut que sa lueur se réverbérait encore sur le massif des arbres. Ainsi, Wallston et sa bande étaient campés en cet endroit, à proximité du petit port de Bear Rock. Les meurtriers du Severn n'avaient point abandonné l'île Sherman. Les jeunes colons étaient toujours exposés à leurs agressions et il n'y avait plus aucune sécurité pour Frenchden. Quelle déception éprouva Brillant! Évidemment, dans l'impossibilité de radouber sa chaloupe, Wallston avait dû renoncer à reprendre la mer pour se diriger vers l'une des terres voisines. Et pourtant, il s'en trouvait dans ces parages. Il n'y avait plus aucun doute à cet égard. Brillant, ayant terminé ses observations, jugea inutile de prolonger cette exploration aérienne. Il se prépara donc à redescendre. Le vent fraîchissait sensiblement. Déjà les oscillations, devenues plus fortes, imprimaient à la nacelle un balancement qui allait rendre l'atterrissement difficile. Après s'être assuré que la ficelle signal était convenablement tendue, Brillant laissa glisser la balle qui arriva en quelques secondes à la main de Garnett. Aussitôt, la corde du virevaut commença à ramener l'appareil vers le sol. Mais, en même temps que le cerf-volant s'abaissait, Brillant regardait encore dans la direction des lueurs relevées par lui. Il revoyait celle de l'éruption, puis, plus près, sur le littoral, le feu du campement. On le pense bien, c'était avec une extrême impatience que Gordon et les autres avaient attendu le signal de descente. Qu'elle leur avait paru longue, les 20 minutes que Brillant venait de passer dans l'espace. Cependant, Doniphan, Baxter, Wilcox, Service et Webb manœuvraient vigoureusement les manivelles du virevaut. Eux aussi avaient observé que le vent prenait de la force et soufflait avec moins de régularité. Ils le sentaient aux secousses que subissait la corde et ils ne songeaient pas, sans une vive angoisse, à Brillant qui devait en éprouver le contre-coup. Le virevaut fonctionna donc rapidement pour amener les 1200 pieds de ligne qui avaient été déroulés. Le vent fraîchissait toujours, et 3/4 d'heure après le signal donné par Brillant, il soufflait en grande brise. En ce moment, l'appareil devait être encore à plus de 100 pieds au-dessus du lac. Soudain, une violente secousse se produisit. Wilcox, Doniphan, Service, Webb, Baxter, auxquels le point d'appui avait manqué, faillirent être précipités sur le sol. La corde du cerf-volant venait de se rompre. Et au milieu des cris de terreur, ce nom fut 20 fois répété. « Brillant ! Brillant !» Quelques minutes après, Brillant sautait sur la grève et appelait d'une voix forte. « Frère ! Frère ! » s'écria Jacques, qui fut le premier à le presser dans ses bras. « Wallston est toujours là !» C'est là ce que Brillant dit tout d'abord, dès que ses camarades l'eurent rejoint. Au moment où la corde avait cassé, Brillant s'était senti emporté, non dans quelque chute verticale, mais oblique et relativement lente, parce que le cerf-volant faisait en quelque sorte parachute au-dessus de lui. Se dégager de la nacelle, avant qu'elle eût atteint la surface du lac, c'est ce qu'il importait de faire. Au moment où elle allait s'immerger, Brillant piqua une tête, et, bon nageur comme il était, il n'eut pas de peine à gagner la rive, distante de 400 à 500 pieds au plus. Pendant ce temps, le cerf-volant, délesté de son poids, avait disparu dans le nord-est, entraîné par la brise comme une gigantesque épave de l'air.